voix marseillaise. Aujourd'hui dans l'émission Voix marseillaise, je reçois Jean Contrucy, une figure du journalisme et de la littérature à Marseille. Il a commencé sa carrière journalistique dans les années 60 et a tracé son chemin d'auteur, il trouve que le monde écrivain est encore trop large pour lui, à l'orée des années 80. Ses romans, essais, ouvrages historiques et polars ont pour décor bien souvent Marseille. Il s'est fait remarquer par le grand public au début des années 2000, avec sa série « Les nouveaux mystères de Marseille », des livres consacrés à des faits divers qui ont eu lieu dans la cité phocéenne à la fin du 19e et au début du 20e siècle, la belle époque. À 85 ans, une vie bien remplie, la littérature au cœur de celle-ci, Jean Contrucy se penche sur son parcours dont il n'est pas peu fier. Quel est votre métier exactement aujourd'hui, hein, même à 85 ans? Est-ce que vous vous sentez plus journaliste qu'écrivain ou l'inverse?
Je me sens surtout retraité, retraité du journalisme, et puis aussi écrivain, si vous voulez employer ce mot qui est un peu large, je trouve, pour moi. Je suis auteur. Voilà.
Pourquoi il est trop large, ce mot?
Parce qu'il est toujours mal employé, en général par des gens qui ne le méritent pas. Alors donc, j'ai pas envie de faire partie de ceux qui se bardent du mot écrivain. Bon, disons que j'ai écrit pas mal de choses, mais voilà, ça fait pas de moi pour autant un écrivain. Je pense pas que ma disparition provoquera un séisme ou un trou dans l'eau pérenne. Voilà.
Mais pourquoi vous vous méfiez de ce mot, écrivain?
Parce qu'il est trop grand. Quoi. Comment appelez-vous Stendhal? Comment appelez-vous Hugo? Comment appelez-vous Verlaine? Ou André Gide ou Louis Aragon? Voilà. J'ai pas cette pointure. J'ai pas cette prétention, je veux dire. Mais le journalisme, ça vous frustre. C'est un métier frustrant parce que on écrit tous les jours, mais ce qu'on a écrit la veille n'est plus bon le lendemain. Donc, on a une espèce de frustration, ça ne reste pas. Et un jour vient l'idée de se dire, et si j'écrivais quelque chose, au lieu d'écrire quelque chose qui servira demain matin à emballer les épluchures de légumes ou de poissons sur le marché, si j'écrivais quelque chose qui restera un peu plus longtemps, voilà. Donc, et est-ce que je serais capable, au lieu de faire un article de 3 pages, de faire un article de 350 pages, qui s'appelle un roman? Voilà. Donc, il y a en même temps... J'ai pas d'illusion sur ma postérité, mais j'ai pas non plus de trop grande modestie. Je veux dire, dès l'instant où vous avez écrit et que vous avez été publié, il suffira que quelqu'un ouvre ce que vous avez écrit dans 10 ans, dans 1000 ans, pour que tout d'un coup vous ressuscitiez. Voilà. Hein, on continue à lire Homère ou Virgile ou Chrétien de Troyes, parce qu'il suffit d'ouvrir un livre qu'ils ont écrit. Voilà.
Est-ce que vous avez prouvé du plaisir dès le départ de vous lancer dans l'écriture d'un livre? Est-ce qu'il y a cette notion?
Oui, bien sûr, bien sûr. Non seulement j'ai éprouvé du plaisir, mais j'allais dire une espèce d'ivresse. Même c'est un travail consolateur. C'est un travail quand on est... Par exemple, je me souviens que les deux années de Covid, hein, où on était tous isolés, j'étais en train d'écrire un roman qui n'est plus paru, et j'avais pas de problème. Le Covid pouvait durer 10 ans, ça m'était égal, parce que je me levais le matin sachant que j'allais faire quelque chose, que j'allais continuer ce que j'avais fait la veille. En général, d'ailleurs, le plus souvent, quand je relis ce que j'ai fait la veille, je commence par le détruire pour faire autre chose, mais on se lève en se disant... Ma journée va être bien remplie, voilà. Et dans les moments il y a des hauts et des bas dans toute vie, c'est quand même une sacrée consolation, voilà. Alors après, lorsqu'au bout du tunnel, on rencontre des gens, des inconnus pour lesquels on a écrit, on les connaît pas, et ils viennent vous dire spontanément, je vous aime, c'est merveilleux. Hein, on a écrit pour eux, on savait pas comment ils s'appelaient, on passe sa vie à écrire pour des gens qu'on connaît pas, et après... À la sortie du tunnel, on les découvre dans les salons du livre ou dans les signatures, et ils viennent vous faire des tas de compliments Parce qu'en général, à moins d'être vraiment mal luné, les gens ne viennent pas pour vous assassiner. Ils viennent en général parce qu'ils aiment ce que vous avez fait et ils viennent vous le dire. Ils viennent vous le dire à leur façon, il y a mille façons de le dire, et c'est une récompense extraordinaire.
Avant de continuer à développer votre carrière d'écrivain et de journaliste, revenons à vos origines. Vous êtes donc Marseillais à 100%.
Oui, comme tous les Marseillais, je suis à 100%, c'est-à-dire je suis d'origine italo-corse et normande. Donc Marseillais pur sucre. Voilà. Donc Claude Dizot disait je suis un vrai Marseillais puisque mon père était espagnol et ma mère de Naples. Voilà. C'est parce que Marseille a toujours fabriqué des Marseillais avec ceux qui arrivaient d'ailleurs. Donc mes ancêtres sont arrivés d'ailleurs, les uns du nord, les autres du sud, et c'est avec ça qu'on fait des Marseillais. Cette ville fait ça depuis 27 siècles. Parce qu'après tout, comment a-t-elle été créée par des immigrés qui étaient eux-mêmes dans une colonie? Phocée, c'était une colonie de la Grèce. Et les Phocéens sont venus fonder une colonie à Marseille. Et Marseille fait ça depuis le début. Voilà, c'est une ville inspirante, sans doute. C'est la ville où on pose son sac, on s'y installe et on se sent comme chez soi.
Est-ce que vous pouvez parler un peu de vos parents, alors? Qui ils étaient? Quelle profession ils exerçaient? Non. Est-ce que vous avez beaucoup de famille?
Non, j'ai une famille assez restreinte parce que mon père est fils unique et je suis fils unique. Alors déjà, ça réduit l'entonnoir, si vous voulez. Donc, j'ai deux enfants, mais je veux dire, j'ai pas des flopés de cousins. Or, en général, les Corses, ils ont des quantités de cousins. Mais il se trouve que mon père est né à Marseille, donc les liens avec la Corse se sont rompus petit à petit. Et donc, moi, je n'ai plus de lien avec ceux qui descendent de mon arbre généalogique. Voilà. Mon grand-père, ils étaient cinq enfants, mais il y avait trois filles. Donc déjà, elles ne portent plus mon nom, puisque les femmes portaient, maintenant elles peuvent garder leur nom de jeune fille, mais à l'époque, elles prenaient celui du mari. Et donc, les contre-ci, il n'y en a pas terriblement. Hein, voilà. Et j'ai pas, et mes parents, donc vous me demandiez d'où ils sortaient. Bon, c'était de la classe moyenne. Ma mère était infirmière et mon père était employé municipal à la mairie de Marseille.
Mais vos parents vous ont éduqué de quelle façon? Est-ce que c'était plutôt sévère, pas sévère? Il y avait beaucoup de littérature, on parlait beaucoup de...
Pas énormément, non. Il y avait beaucoup d'amour, ah oui, ça compte quand même. Je veux dire, j'ai eu une enfance privilégiée, heureuse, avec des parents qui s'aimaient et qui m'aimaient. Donc là, je veux dire, c'est sans histoire, vous voyez, c'est pas avec ça qu'on fait un roman. Donc, de ce côté-là, j'ai pas à me plaindre, mais j'ai fait des études comme on... Je suis par contre le premier de la famille, sans doute, enfin de la lignée, à avoir passé le bac et à être allé au-delà du bac. Voilà. Jusque-là, il n'y avait pas d'études supérieures dans la famille. C'est pour vous dire que je ne suis pas né dans une bibliothèque avec un père qui avait les œuvres complètes de Victor Hugo reliées en peau de chagrin. Hein, voilà. Donc on lisait petitement et des choses tout à fait ordinaires.
Voilà. Vous êtes né donc boulevard Baille, à l'angle du boulevard Baille et de la rue Crillon.
Oui, angle rue Crillon, boulevard Baille. Entre deux hôpitaux, la Timone et la Conception, ma mère étant infirmière à l'hôpital de la Conception. Donc j'ai vécu dans un milieu hospitalier, pas de haut niveau, puisque c'était une infirmière lambda, mais c'est un milieu que j'ai bien connu et bien fréquenté, puisque le quartier vivait quand même avec l'empreinte de ces deux hôpitaux qui étaient à l'extrémité de boulevard Baille tous les deux.
Et au niveau des établissements scolaires, vous avez fréquenté quels établissements ici dans le quartier? Est-ce qu'il y a un établissement qui vous a marqué particulièrement?
Bon, j'ai fait comme tout le monde à l'époque, j'ai fait l'école communale du quartier. Il se trouve que l'école communale du boulevard Baille, elle était en face de ma maison. Donc j'avais le boulevard Baille à traverser et j'étais à l'école communale. Et après, je suis allé à l'école, dans une école privée, parce que mes parents pensaient que, non pas par souci de gloriole ou de religion, mais ils pensaient qu'on serait mieux surveillé dans une école privée que dans une école publique. Bon, ça les regardait. Ce qui fait que j'ai fréquenté l'école Saint-Joseph, qui était tenue par des frères maristes à l'époque, et qui a par moi, je dirais, une autre figure marseillaise qui s'appelait... Il s'appelle plus comme ça depuis peu, qui s'appelait Jean-Claude Gaudin. Voilà, donc nous avons fait parallèlement nos études primaires et secondaires.
Alors, à la fin de vos études, ou même un peu avant, vous aviez le rêve de travailler dans la régie des tramways de Marseille.
Oui, mais ça, c'est un rêve de gosse, parce que vous savez, maintenant, les tramways n'ont pas cette allure-là, mais d'abord il faut dire que Marseille était maillée de lignes de tramway. À la belle époque, il y avait 175 kilomètres de lignes de tramway. On allait en tramway partout. On allait en tramway à Aubagne, on allait en tramway à Aix, et toute la ville avait une toile d'araignée. Et puis, est arrivé, l'après-guerre. C'était bien que la guerre soit terminée, mais en revanche, ça a été le règne de la voiture. Et pour faire de la place à la voiture, on a démoli tout le réseau de tramway et on a coupé tous les arbres qui faisaient... Et maintenant, on reconstruit à grands frais le tramway. Et d'ailleurs, à l'échelle de Marseille, c'est un réseau qui est minable, puisqu'il fait à peine une petite vingtaine de kilomètres. Alors, je vous dis, il y en avait 175 kilomètres qu'on allait partout. Et on pouvait aller dans toutes les banlieues avec le tramway. Alors que maintenant, quand vous voulez aller d'un endroit à l'autre de la ville, d'un certain trajet, si vous n'avez pas de voiture, vous mettez l'après-midi. Quand j'ai écrit... Pour rire ma biographie, j'ai dit que je rêvais de devenir un Wattman à cause de la manivelle de cuivre. C'était vraiment, on aurait dit un capitaine sur le pont de son navire. Vous voyez, donc ça avait de la figure. Les enfants, c'est un peu comme si on voyait un officier supérieur, quoi, et il nous conduisait royalement sur tous les aux quatre coins de la ville, sur des rails qui faisaient un bruit infernal, des perches qui sautaient. Enfin, il y avait tout un folklore autour de ce moyen de transport auquel, je vous dis, on revient et on a eu tort surtout de s'en priver parce qu'on aurait un des plus beaux réseaux de France.
Vous auriez dû faire la guerre d'Algérie, oui. Et vous l'avez évité.
Je l'ai évité. Enfin, elle m'a évité. Elle a fini avant que je sois obligé d'y aller. Parce qu'on a oublié ça, la génération. Vous savez là, très souvent, il y a une espèce d'amnésie générale dans les générations. On oublie ce que ça a été. La guerre d'Algérie, ça a été un désastre. D'abord parce qu'il y a eu des centaines de milliers de morts. Et on a oublié aussi que pour conduire cette guerre qui ne disait pas son nom, on rappelait des jeunes gens pour les envoyer se battre en Algérie. Ils étaient faits soldats comme moi pour être contrebassiste. Et donc, beaucoup sont allés mourir là-bas. Et tout d'un coup, on les arrachait à leur famille et on les envoyait se battre pour garder l'Algérie à la France, qui était une colonie. Donc, c'était un département français, mais n'empêche que c'était une colonie. Et donc, cette guerre d'Algérie, elle a duré quand même 7 ans. Et au fur et à mesure, je faisais donc des études supérieures, je faisais une licence de lettres, et je voyais arriver l'année où ma classe allait être rappelée pour partir là-bas. Je n'avais pas du tout envie. Mais j'y serais parti parce que j'ai beaucoup de gens de ma génération qui ont été des condisciples, ils sont allés, quelques-uns ont passé 30 mois là-bas à trembler tous les soirs de se faire assassiner par Fellaga ou bien de tomber dans une embuscade. J'ai des exemples autour de moi et malheureusement ça a été un grand drame. Et la guerre d'Algérie s'est arrêtée en 62 et donc j'ai pas eu le malheur de partir là-bas pour me battre pour une cause que je n'aurais pas défendue parce que j'étais absolument opposé à la politique de la France à l'époque. D'ailleurs, on n'en est toujours pas remis puisque nous sommes encore fâchés avec les Algériens. C'est encore un reliquat de cette fichue guerre qui a vraiment fait des dégâts dans les deux jeunesses d'ailleurs.
Alors en 1967, vous épousez la carrière de journaliste.
En fait, du moins, modestement, je commence à être embauché dans un journal qui n'existait plus, qui s'appelait Provence Magazine, et qui était comme son nom l'indique, un magazine qui apparaissait deux fois par mois, et qui était un peu dans le genre, pour parler d'un journal qui existe encore aujourd'hui, c'était un peu comme un Paris Match, si vous voulez, mais modestement, à l'échelon provençal. Quoi. Donc, j'ai commencé là, et il se trouve ensuite que mon patron... Et parti au Provençal, au journal Le Provençal, donc, qui est l'ancêtre de la Provence, et il a eu la très bonne idée de m'amener avec lui. Donc j'ai été dans le wagon qui a fini sa route en 96, quand Le Provençal a été fusionné avec le Méridional pour devenir la Provence.
Voilà. Mais alors vous étiez au Provençal grand reporter?
Oui.
Alors qu'est-ce que ça voulait dire, grand
Moi, j'ai toujours trouvé cette appellation complètement idiote. Il y a des petits reporters. Hein, je ne sais pas s'il y a des petits reporters. Disons, j'étais reporter, puis c'est un grade, mais beaucoup se gargarisent avec des grands reporters. Vous voyez, c'est grand amiral. Il y a des bons reporters et des mauvais reporters. Voilà, donc j'étais reporter.
Vous n'avez pas de spécialité?
Je n'avais pas de spécialité, sauf la littérature. Parce que alors, après, quand j'ai pris un peu de galon, je suis devenu le patron de la page littéraire du Provençal, qui paraissait une fois par semaine le dimanche, et qui continue d'ailleurs à apparaître chaque dimanche dans la Provence. Mais c'est moi qui l'ai lancé en 1983. Voilà, avoir une page complète consacrée à la littérature, aux livres. Alors, évidemment, ça m'a permis de faire connaissance de nombre d'écrivains, parce que c'est une région qui en comporte beaucoup. Et donc, ce sont des gens que je continue à fréquenter, puisque beaucoup sont, Dieu merci, encore là. Et j'en ai vu encore, j'étais au salon de Toulon il y a 15 jours, on y était encore toute une bande que j'ai connue et que j'ai chroniquée dans la rubrique que je tenais le dimanche.
Voilà. Qui par exemple?
René Frény, Maurice Gouirand, Gilles Del Papas, voilà, des gens comme ça, quoi, et d'autres que j'oublie.
En parallèle, vous étiez le correspondant du Monde,
oui.
Donc de 1975 à 1995.
Pendant 20 ans, j'ai été le correspondant du Monde. Ça s'est fait par connaissance, quoi. Voilà, il y avait un correspondant à Marseille qui prenait sa retraite, qui m'a demandé si je voulais bien lui succéder. Tout d'un coup, on se sent, comment dirais-je, c'est un journal qui vous honore, parce que c'est un grand journal. C'est pas que le Provençal était un petit journal, mais c'était un grand journal de la région. Tandis que là, on devenait tout d'un coup un grand journal national et même international. Et je vous jure que la première fois que j'ai eu un article dans Le Monde, et qui commençait à la première page, le roi n'était pas mon cousin. Là, vraiment, je crois que, je ne sais pas si un de mes romans m'a procuré une pareille joie, une pareille fierté. De voir son nom imprimé à la une du Monde, qui est un journal qui est lu dans le monde entier, ça, c'est quand même une espèce d'adoubement. C'est un peu comme si on devenait chevalier, vous voyez, tout d'un coup on prend du galon, voilà.
Alors, de façon générale, au niveau journalistique, est-ce que vous vous souvenez d'événements, de moments qui vous ont marqué dans votre carrière? Donc
c'est peut-être quelque chose qui est oublié, mais c'est un fait divers qui à l'époque a fait du bruit. Il y a eu une affaire avec le patron de la sécurité sociale à Marseille. Et donc, il y a eu un mouvement social, il y a eu une grève à la sécurité sociale, et le patron de la sécurité sociale était un homme de caractère et de pouvoir qui a pas voulu céder, et il a été lâché par à l'époque la gauche venait de prendre le pouvoir. C'était après 81, donc Mitterrand était au pouvoir, et Madame Questio, qui était la ministre de l'Affaires sociales, avait lâché le directeur de la sécurité sociale à Marseille, qui était en lutte avec les grévistes, et cet homme s'est suicidé. René Lucet s'est suicidé, et bizarrement, il s'est suicidé de 2 balles dans la tête. Donc, vous voyez à peu près l'affaire, c'est-à-dire l'affaire est devenue politique, puisque c'était la gauche était au pouvoir, donc évidemment la droite s'est emparée de ça, en disant on a poussé René Lucet au suicide, et un suicide avec 2 balles, ça n'existe pas. Ça a été une très grosse affaire qui m'a tenu longtemps. Je n'étais pas dans le service des faits divers.
Ça ne vous a pas frustré?
Si, ça m'a frustré, et j'en ai écrit 13 volumes des Nouveaux Mystères de Marseille. C'est la preuve que je me suis guéri de ma frustration. Thank you.
Quels étaient vos rapports avec les politiques, le milieu politique marseillais en tant que journaliste ?
C'était assez délicat parce que, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais Gaston Defferre, qui a quand même régné 33 ans sur cette ville, et quand j'ai régné, j'emploie le mot à escient, donc était aussi le patron du Provençal. Donc la politique, elle valait mieux ne pas mettre les pieds là où on ne savait pas où on allait. Hein, donc, si vous voulez, moi, je n'ai pas... Il y avait aussi des journalistes du Provençal qui ne faisaient que la politique, donc je n'étais pas non plus dans ce service-là. Voilà. Donc, je vous déçois parce que je n'étais pas partout.
Il faut rester quoi, alors, comme sujet ? Donc, la médecine, la société ?
La société, les autres faits divers. Voilà, il y a des tâches. Le tourisme, la Provence, l'archéologie. Voilà, il y a des tas de choses à faire. Et puis des interviews. J'ai interviewé à peu près, pendant 30 ans, tous les prix Goncourt de l'année. Hein, donc ça, là aussi, ce sont des rencontres, des gens intéressants, des gens qui vous apportent quelque chose.
Vous avez dit quand le Provençal a disparu en 1997, qu'on l'avait assassiné.
On a fait croire qu'on fusionnait deux journaux, Provençal et Méridional, qui avaient été quand même pendant plus de 30 ans des frères ennemis. Hein, un c'était la droite, l'autre c'était la gauche. Il faudrait aller aux archives ou voir des numéros de l'époque. Si vous voyez en période électorale, c'était une bataille de chiens. Hein. Il y avait des articles sanglants sur un camp ou sur l'autre, méridional, tiré à boulet rouge, et le provençal se défendait en montrant les crocs. Donc, en 97. On a fait croire qu'on fusionnait les deux journaux pour faire la Provence. En réalité, on a supprimé deux journaux et on en a créé un troisième. La Provence n'est pas le fils légitime du Provençal ni du Méridional, d'ailleurs. C'était un autre journal.
Alors justement, quel regard vous portez sur le journalisme aujourd'hui en France et à Marseille ?
Il est dans un sale état parce que le journal papier vit, la fin de son règne. Quoi. Vous savez, moi je suis d'un temps où quand je voulais avoir les résultats du bac, j'allais au Provençal parce qu'on les affichait la veille de la publication. Lorsque je voulais savoir qui avait gagné l'étape du jour, on allait au Provençal ou au Marignan ou à la Marseillaise pour voir si c'était Bobet, Anquetil, Poulidor qui avait gagné. Donc, je veux dire, le journal, c'était le médium majeur de l'information. Les gens, pour savoir ce qui se passait chez eux, ils allaient voir le journal. Hein. Maintenant, ils n'en ont plus besoin. Ils ont la télé, mais ils ont aussi les réseaux sociaux.
Le journal numérique aussi.
Mais moi, je ne crois pas qu'on lise le journal comme on le lisait avant. Vous ne voyez plus de crieurs de journaux. Or, à l'époque, il y avait quand même des crieurs de journaux. Ils avaient un paquet de journaux au bras et ils le vendaient à la criée, à la sonnette. Hein. Donc, voilà. Donc, ça a disparu. Maintenant, on les trouve dans les bistrots. Où les buveurs de café ou de pastis le feuillettent un peu et font les mots croisés ou regardent les courses de chevaux, mais on ne le lit plus comme on le lisait avant. Il n'y a plus ces milliers de d'exemplaires qui partaient toutes les nuits dans toutes les villes de Provence à livrer le Provençal ou le Méridional.
Le niveau n'a pas baissé, du journalisme en France.
Pas du tout, il n'a pas baissé. Ce qui a baissé, ce sont les ventes. C'est le médium qui a baissé. C'est la façon de s'informer qui a complètement changé, complètement. Vous allez regarder votre téléphone, il y a des alertes, s'il se passe quelque chose, vous le savez immédiatement. Donc, parce qu'il ne faut pas oublier que ce qu'on lisait, c'était ce qui s'était passé la veille, hein, parce qu'il fallait que pendant la nuit, on fasse le journal, et qu'il partait au petit matin pour que les kiosquiers regardaient aussi le nombre de kiosques. Maintenant, vous les comptez sur les doigts d'une main, hein, dans Marseille. Il y en avait partout, il y en avait dans tous les quartiers, des kiosques, hein, des points de vente, ce qu'on dit. Il n'y avait pas de maison de la presse à l'époque, qui faisait un peu les deux, qui faisait la presse et le journalisme. Donc, c'était le médium majeur. Donc, mais il donnait les choses de la veille. Où j'ai été précieux pour Le Monde, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas les moyens de maintenant. Donc il fallait que quelqu'un, le correspondant, décroche son téléphone et en dit il y a une affaire à Marseille, est-ce que vous voulez que je vous fasse tant de livres ou combien je vous fais sur tel. Mais parce que je les faisais le matin et que Le Monde sortait. Le Monde était un journal du soir, hein, on l'oublie toujours. C'est un journal qui sort en début d'après-midi. Donc moi, si le matin je pouvais envoyer un papier à 7h du matin, je faisais gagner un jour au Monde. Par rapport à France ce soir, par rapport à Paris Presse ou aux Parisiens, qui eux étaient obligés d'attendre le lendemain pour publier la nouvelle que moi j'avais envoyée à 11h du matin et qui à 3h était dans les kiosques à Paris. Vous voyez par exemple, lorsque Giscard d'Estaing, le président de la République, a été élu, il a commencé à faire des choses qu'on ne faisait jamais. C'est-à-dire qu'il est venu à Marseille pratiquement sans prévenir personne. On ne l'a su que le lendemain. Bon. Or, il se trouve que moi, j'étais au Provençal et que Gaston Defferre, en tant que maire de Marseille, était tenu à l'accueillir. Donc, il avait appelé le journal en disant « Il y a Giscard qui vient, mais pour l'instant, c'est une visite pas du tout officielle. On ne le dira que demain. Mais envoyez-moi quelqu'un qui vienne et qui fasse les photos. » Et donc, ce quelqu'un, il se trouve que c'était Contrussi. Et donc, je suis allé accueillir Giscard d'Estaing à Marignane. à l'époque, à ce moment-là, à Marseille, personne ne savait que le président de la République était là. Il était allé visiter une cité, il voulait un petit peu moderniser la fonction. Donc, et il se trouve que j'étais depuis peu correspondant du Monde, donc j'ai appelé du bord de la piste, j'ai appelé le Monde en disant, dites-moi, il y a Giscard qui est à Marseille. Ils ne le croyaient pas, d'ailleurs, parce qu'au Monde, évidemment, ils pensaient qu'ils savaient tout. Hein. Et donc, j'ai fait un article qui est paru l'après-midi même dans Le Monde, donc qui a brûlé tous les autres journaux nationaux. Voilà. Mais ce n'est pas mon mérite, c'est parce que j'étais là et qu'on m'avait demandé d'y aller. Je veux dire, ce n'est pas moi qui avais deviné que le président était venu incognito. Ouais.
Et votre rapport avec Gaston Defferre, qui était le propriétaire du Provençal, c'était quel rapport? Est-ce qu'il fallait lui obéir d'une certaine manière, suivre ses directives?
Tout le monde lui obéissait. Mais moi, je n'ai jamais eu de problème personnel avec lui. Je crois qu'il m'aimait bien, mais sur le plan humain, quoi. Voilà. Donc, comme je n'ai jamais écrit Gaston Defferre est un imbécile dans le Provençal, je n'ai jamais eu de problème. Voilà. Or, en plus de ça, comme il voulait quand même que le journal ait un vernis culturel, et je m'occupais de littérature, et que je vous rappelle qu'il était quand même l'époux d'Edmond Charroux, prix Goncourt. Les livres, ça comptait pour lui. Donc, moi, j'étais le responsable de la tenue littéraire du journal. Donc, j'ai toujours eu des rapports de cordialité complète, même affectueuse, je dirais.
Alors, parlons de littérature maintenant. Quelles sont vos influences littéraires? Il y a comme ça des marqueurs?
Il y a des marqueurs, mais enfin, j'ai toujours été un généraliste, y compris en littérature. Vous voyez. Donc, moi, de mon temps, j'ai bien aimé des gens comme Boris Vian, par exemple, qui était pour moi un maître.
Vous avez beaucoup aimé les feuilletonistes, non?
J'ai aimé les feuilletonistes parce que j'ai écrit des livres, des romans qui se passent à la Belle Époque. Et à la Belle Époque, c'était l'époque, les journaux avaient des feuilletons. Hein. Si vous voulez, le feuilleton, c'est quoi? C'est l'équivalent d'une série TV maintenant. Oui, c'est-à-dire, c'est une histoire qu'on raconte un peu tous les jours, hein, ou tous les jours, ou tous les deux jours, ou toutes les semaines. Ce sont des histoires morcelées et que l'on rassemble ensuite en livre. Donc, si vous voulez, c'est pas. Moi, j'ai toujours aimé le feuilleton parce que dans les journaux, il y avait toujours, en bas de la première page, il y avait ce qu'on appelait le feuilleton, c'est-à-dire le rez-de-chaussée. Hein. Le rez-de-chaussée était un rez-de-chaussée littéraire. On publiait, par exemple, Tous les ouvrages de Zola, vous me dites qu'il y a des influences, voilà. En voilà un qui m'a influencé de diverses façons. Tous les ouvrages de Zola sont d'abord parus en feuilleton dans les journaux. C'est après qu'on en faisait un roman, mais ils paraissaient d'abord dans la presse. Hein, c'est à l'époque que la littérature tenait une grande place dans la presse. Voilà. Donc j'ai aimé le feuilleton parce que j'ai été un peu élevé dedans.
Alors, les nouveaux mystères de Marseille, donc votre série, hein, votre fameuse série que vous avez commencée il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette série? Qu'est-ce qui vous a donné envie?
Eh bien, on revient à la frustration. Vous m'avez dit tout à l'heure, mais vous êtes jamais occupé de faits divers. Il se trouve que, à l'époque, j'écrivais des chroniques dans le Provençal qui paraissaient sous le titre « Ça s'est passé à Marseille ». Alors, c'était n'importe quel sujet pourvu qu'il se soit déroulé à Marseille. Maintenant, ou il y a 2000 ans, vous voyez. Donc, et ça, on avait habitué les lecteurs à retrouver cette rubrique. Et en écrivant une série de faits divers anciens, je découvre une histoire qui s'est passée à la Blancarde. Et une histoire fameuse, puisque on n'a jamais su exactement ce qui s'est passé. Alors c'est ça qui est intéressant. Quand on sait la fin de l'histoire, ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas savoir comment ça s'est passé. Et ça permet d'ailleurs d'inventer la fin de l'histoire, qu'on ne connaît pas. Bon, c'était l'histoire de l'assassinat d'une rentière. On pensait que c'était son fils adoptif qui l'avait assassiné. Et puis finalement, on n'a jamais su qui c'était. C'était probablement pas lui, mais il faisait l'affaire. Et donc, c'est une affaire qui est un peu comme l'affaire Dreyfus, a tenu en haleine à Marseille pendant des années. Pendant 10 ans, on a parlé de cette affaire. Donc, comme on n'avait jamais su le fin mot de l'histoire, je me suis dit, tiens, je vais reprendre, à la façon des feuilletonistes, je vais reprendre l'histoire de la Blancarde et je vais proposer une solution à l'énigme. Hein, voilà. Donc, c'est devenu l'énigme de la Blancarde, qui est parue il y a 23 ans maintenant.
Cette époque, vous l'aimez?
Oui, elle était intéressante. Parce que c'est le sommet du rôle colonial de Marseille, c'est-à-dire c'est l'époque où le port est ouvert sur le monde entier. Et il n'y a pas encore de transport aérien, hein, et les containers, ça n'existe pas. Donc tout passe par Marseille. Et Marseille est à la tête d'un empire colonial considérable. Donc ça permet d'avoir les trafics d'opium passés par là, les trafics de marchandises passés par là, etc. Donc il y avait des tas de choses. Alors, l'énigme de Blancard a eu un certain succès, et mon éditeur, Jean-Claude Lattès, à l'époque, m'a dit, et si on faisait, à ce moment-là, une série, c'était après la Coupe du Monde, on avait vu certains matchs ici, donc Marseille avait le vent en poupe, et donc il m'a dit, mais on pourrait peut-être faire une série où chaque épisode se passerait dans un quartier différent de Marseille. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé coincé à la Belle Époque, puisque le premier se passait à la Belle Époque, et je ne pouvais pas faire un bond de 50 ans tout d'un coup. Il fallait que je garde mon héros, qui est journaliste, son oncle, qui est policier, enfin les personnages principaux, et les balader à travers Marseille, à travers certains quartiers de Marseille. Voilà. Donc on est allé à Mazargues, on est allé à la Belle de Mai, on est allé à Rouet, on est allé à l'Estaque, etc.
Comment vous travaillez ? Vous fréquentez beaucoup les archives ici, municipales, départementales, oui. Vous passez votre temps ?
Bien sûr, oui, parce que je fais ce qu'aurait fait un journaliste, mais à l'inverse, c'est-à-dire je suis allé lire les journaux de l'époque pour voir ce qui se passait. Et il y a beaucoup de péripéties de mes romans que je suis allé pêcher dans les journaux quotidiens, des faits divers, des histoires. Par exemple, il y en a un, je me rappelle, en 1909, il y a eu un tremblement de terre à Marseille. Je l'ai intégré dans mon histoire. Ça me sert à il y a eu un tremblement de terre, comme il y en avait eu un énorme en Italie qui avait fait 200 000 morts, les Marseillais se sont dit, ça y est, c'est notre tour. La terre avait un peu tremblé, mais c'était pas bien grave. Et j'avais lu dans les journaux que tout Marseille avait passé la nuit dehors, debout. Les Marseillais n'avaient pas dormi en attendant la secousse qui allait, parce que ça s'était passé vers 9 heures du soir. Donc les gens se sont dit, ça y est, ça va faire comme à Messine, on va faire comme les Italiens, on va avoir des milliers de morts. Donc c'était marrant de se dire, toute la ville avait veillé, quoi. Et je l'ai intégré dans mon histoire, puisque mon héros a perdu un peu la piste d'un personnage qu'il suit depuis quelque temps. Et comme tout Marseille est dehors, je me suis dit, après tout, ils peuvent se rencontrer à ce moment-là. Vous voyez, je veux dire, prendre un fait que j'ai lu dans le journal de ce jour-là et le mettre dans une histoire que je suis en train d'inventer.
La pluie fait des claquettes sur le trottoir à minuit. Parfois je m'y arrête, je l'admire, j'applaudis. Je suis son chapeau claque, son queue de pie verticale, son sourire de nacre, sa pointure de cristal. La pluie, aussi douce que Marlène, aussi vache que Dietrich, elle trouve mon bas de laine, que je sois riche ou pas riche. Mais quand j'en ai ma claque, elle essuie mes revers et m'embrasse dans la flaque d'un soleil à l'envers. La pluie, avec elle je m'embarque en rivière de diamants. Je la suis dans les cloaques où elle claque son argent. Je la suis sur la vitre d'un poète endormi.
la tempe sur le titre du poème Ennemi. La pluie, à force de rasade, de tournée des grands ducs, je flotte en eau gambade, la pluie perd tout son suc. Quittons-nous, dis-je, c'est l'heure, et voici mon îlot. Salut, pourquoi tu pleures? Parce que je t'aime, salaud. La pluie fait des claquettes sur le trottoir à minuit.
Est-ce que vous écrivez une trame avant de commencer? Vous avez un plan bien défini ou vous vous nourrissez de lecture, des archives et ensuite, petit à petit, vous vient quelque chose et vous commencez comme ça à écrire?
Voilà, c'est exactement. Je pars souvent, bon, puisque ce sont des épisodes qui se passent dans des quartiers différents. D'abord, je fais une petite étude sur le quartier pour voir comment il était à l'époque, ce qu'il en reste. Par exemple, à la Belle de Mai, je suis allé voir.
Vous allez physiquement aussi.
Physiquement sur le terrain. Et après, je vais aux archives lire les journaux. Et là je puise des tas de choses. Et ça me donne. Par exemple, si mon héros s'achète un costume, combien il lui coûte ce costume? Eh bien, je le trouve dans les journaux de l'époque, parce qu'il y avait ce qu'on appelait pas des publicités, mais des réclames en disant la Belle jardinière, un costume pour 175 francs. Hein, voilà. Donc, si mon Raoul Signoret achète un costume. Donc, il sait qu'il va le payer. Combien coûte un boc? Combien coûte un fauteuil à l'opéra? Ou combien coûte un balcon à l'Alcazar? Vous voyez, bon. Et ça, vous le trouvez dans les journaux. C'est-à-dire les nouvelles du jour. Quoi. De quoi parlaient les Marseillais ce jour-là? Hein, voilà.
Vous revenez donc chez vous à la maison avec beaucoup de notes.
Non, mais moi, j'ai des tas de cahiers. Et puis après voilà. Après, je pars un peu le nez à l'aventure. Hein. Je ne fais pas de plan parce que j'aime bien me faire des surprises. Je me dis que si je me fais des surprises, je vais les faire au lecteur. Si je sais la fin, je n'ai pas envie d'y aller si je connais la fin.
Alors, vous commencez le matin, vous finissez le soir, vous écrivez tous les jours, vous avez une sorte de discipline.
Voilà, oui, je vais au bureau, quoi. Hein, voilà. J'ai une discipline, je crée le matin, le soir, et puis voilà.
Et toute la journée.
Oui. Moi, j'écris. Je suis un diurne. Hein, il y a des auteurs qui travaillent que la nuit. Moi, je suis incapable. À partir de 9h du soir, je commence à clignoter. Donc, moi, il me faut la lumière du jour. Même si j'écris un chapitre qui se passe en pleine nuit, je le fais en plein jour. Voilà. Et puis après, voilà, au bout de quelques semaines, vous avez 150, 160 pages, ça commence à prendre un peu tournure. Même si au départ, vous êtes parti un peu le nez au vent, en disant je vais là, puis on verra bien ce que ça donne.
Hein, voilà. Vous écrivez à la main ou sur une machine ?
Sur ordinateur. Parce qu'il se trouve que le Provençal était le premier journal en Europe à pratiquer la composition sur ordinateur. Donc on était déjà habitué en tant que journaliste à taper nos papiers directement sur un PC.
Raoul Signoret, Eugène Baruteau, donc les héros de votre série, est-ce que ce sont des purs produits de votre imagination ou c'est un mélange de personnes que vous avez connues, peut-être même de vous-même?
Mais vous savez, tous les personnages, ils sont un petit peu comme le manteau d'Arlequin. Ils sont faits de petits morceaux qu'on a cousus ensemble. Au départ, on a une vague idée. Bon, je parle de Raoul Signoret. Quand je l'ai créé, c'était pour l'énigme de la Blancarde. Comme je voulais rappeler l'histoire vraie de cet assassinat de cette rentière, il fallait que je trouve quelqu'un pour la raconter. Donc, j'ai imaginé que un journaliste frustré du fait qu'il n'y a pas eu de fin à cette histoire, il reprend l'enquête à son compte. Hein. Donc, c'est comme ça que j'ai créé Raoul Signoret. Et comme j'avais besoin qu'il ait des renseignements, j'ai créé Eugène Baruteau, qui est le chef de la sûreté, qui est son oncle. Donc je me dis, comme ça, je suis d'un côté et de l'autre. Je suis du côté du journaliste, je suis du côté du policier. Lorsque le journaliste patauge un peu, ben, il va voir son oncle qui a des dossiers, qui peut lui dire, tu devrais aller voir ça, tu devrais aller voir un tel, tu devrais interroger les témoins. Voilà. Et quelquefois, le journaliste, c'est le journaliste qui apporte au policier le fin mot de l'histoire. Voilà. C'est comme ça que ça s'est fait.
Alors, qu'est-ce qu'il y a de vous dans vos héros de cette série ou d'autres ouvrages que vous avez écrits?
Inconsciemment ou pas, on se met toujours un petit peu dedans. C'est pas qu'on se met en scène, mais comme le personnage au départ, il n'a pas d'épaisseur. Il faut lui prêter des qualités, des défauts, un caractère, des façons de réagir, etc. Donc, on puise dans soi-même. Bon, il est évident que mon Raoul Signoret, ce n'est pas un journaliste d'extrême droite. Hein, voilà. Même si je ne sais pas des livres politiques, on sent très bien où il se situe.
Hein, Alors, il est quoi?
Ben, il est de gauche, quoi. Il est de gauche au sens large du terme. C'est pas non plus un anarchiste, c'est pas. Mais bon, il a une fibre sociale, hein, voilà. Une fibre sociale. Dans plusieurs des numéros, des épisodes, on sent que il se bagarre avec les gens du Petit Marseillais qui sont plus à droite. Et voilà.
Est-ce que vous faites dire à vos personnages des choses qui sont importantes pour vous?
Oui, oui, naturellement.
Par exemple.
Écoutez, je ne sais pas.
Comme mais... ça, des choses qui vous tiennent à cœur et que vous avez incrustées.
Voilà, quand il assiste à une scène où se manifeste du racisme, à l'époque, le racisme, il est anti-italien à Marseille. Hein, bon, les babis, ce sont les maghrébins de maintenant. Hein. Donc, ben, ouais, il y a deux ou trois séquences où il assiste à des... et il prend la défense du plus faible. Quoi, voilà. J'ai essayé, quitte à faire un héros, je l'ai fait... généreux, hein, il est beau, il est généreux. Il va pas faire.
Bon, est-ce qu'il est loyal?
Ah oui, ça, je crois que c'est sa qualité. C'est la première qualité, c'est la loyauté, je pense.
Je dis ça parce que c'est une qualité à laquelle vous êtes très attaché, la loyauté. Vous le dites, hein, j'ai lu quelque part. Ouais.
Oui, je l'ai mis sur une interview que j'ai publiée sur mon site personnel.
Pourquoi c'est important, la loyauté?
C'est important parce qu'on ne peut pas vivre dans la trahison. Moi, les peines, les chagrins que j'ai eus les plus graves dans la vie, c'est quand on m'a trahi ou qu'on a été déloyal avec moi. Voilà. Et j'essaye de ne pas l'être. Je ne pense pas que je le sois foncièrement, ou alors je ne me serais pas aperçu.
Le polar, pour vous, c'est un genre majeur?
Oui, c'est un genre majeur parce qu'il permet d'aborder toutes les phases de la société, toutes les couches de la société. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant à Marseille, c'est que quand vous faites, comme j'ai fait, des épisodes qui se passent dans des quartiers différents, on a des ambiances différentes. Cette ville c'est une mosaïque. Hein, donc, si vous êtes à la Belle-Mie, vous n'allez pas écrire le même roman qu'à la rue Saint-Jacques. Vous voyez ? Parce que c'est pas la même population. Le spectre de la rue Saint-Jacques, ça se passe dans les beaux quartiers, c'est-à-dire la préfecture, la rue Saint-Jacques, la rue de Rome. Bon, c'est évident que les personnages qui habitent là, ils n'auront pas la même mentalité que les Italiens de la Belle-Mie ou les paysans de Saint-Marcel.
Hein, oui. Un des personnages marseillais que vous admirez, c'est Alexandre Marus Jacob, oui. Le célèbre anarchiste marseillais qui a inspiré Maurice Leblanc pour écrire Arsène Lupin.
Exactement, oui. Oui, d'ailleurs, bon, j'ai toujours été... il se trouve que j'ai un collègue, un confrère, Gilles Delpapas, qui a écrit sur Alexandre Marius Jacob. Alors donc, je me suis dit, je vais pas marcher sur ses plates-bandes. Et il l'a fait, mais j'aurais bien aimé écrire un roman dont il aurait été le personnage principal. Mais vous voyez, j'aurais trouvé déloyal d'aller piétiner les plates-bandes d'un ami.
Alors vous qui travaillez beaucoup avec la matière historique, qu'est-ce que vous pensez de notre époque ?
Elle me désespère, voilà, parce que quand je suis né, quand j'ai grandi, disons, hein, quand j'ai commencé à avoir conscience de l'endroit où j'étais, c'était la fin de la guerre, c'était le début des 30 Glorieuses, on se dit, ça y est, il ne va plus y avoir jamais de guerre, il ne va plus y avoir de maladie, on va être heureux, on va être... Voilà. Bon. Or, je vais quitter cette terre, parce que j'ai fait le plus gros, comme on dit, hein, donc ça ne devrait pas tarder, et je vais quitter cette terre où la guerre est en Europe, comme quand je suis né, la guerre mondiale, comme quand je suis né, Et la politique est absolument désespérante, comme quand je suis né. Donc, c'est une vie de désillusion.
Voilà. Et concernant Marseille, à proprement parler, vous pensez quoi du Marseille d'aujourd'hui ?
Je pense aussi que, bon, c'est une ville à laquelle je suis profondément attaché, mais elle me désespère aussi de temps en temps parce que je trouve qu'elle est pas arrivée. Vous voyez, si vous connaissez Barcelone, vous dites au fond, Marseille aurait pu être Barcelone. Elle a jamais su jouer un rôle de capitale régionale. Elle a toujours regardé ailleurs, ça ne l'intéresse pas. Et elle a toujours tourné le dos au reste de la province, ce qui fait qu'elle n'est pas devenue la ville fédératrice.
Pour certains, c'est une qualité d'avoir un peu tourné le dos.
Certainement, c'est une qualité. D'ailleurs, quand elle vivait uniquement de son port, il est évident que c'était une qualité, parce qu'elle était la porte ouverte, c'était la porte de l'Orient, hein, on l'a baptisée comme ça. Donc, le monde entier passait par Marseille. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant que la première exposition coloniale qui ait jamais eu lieu en France ait eu lieu à Marseille en 1906, et non pas à Paris. Ça en dit long sur l'ambition qu'avait cette ville à l'époque, d'être la porte du monde. Hein, 1906, on a créé le parc Chanot pour faire la première exposition coloniale sous l'œil, le sourcil français du Quai d'Orsay qui voyait cette ville de province se comporter pour une fois comme une capitale. Vous voyez, je crois qu'on a souffert du centralisme français, et on a souffert aussi du fait que Marseille n'a pas su prendre la place qu'elle aurait pu occuper, qui est celle de Gênes, qui est celle de Barcelone, qui est celle de villes comme ça.
Et pourtant, vous n'avez jamais quitté cette ville.
Non, mais c'est peut-être parce que l'occasion ne s'est pas présentée non plus. Hein. Mais je n'ai
pas eu envie de faire carrière ailleurs.
L'occasion ne s'est pas présentée, c'est tout. Une fois, le monde m'a demandé si je ne voulais pas monter à Paris, comme on dit, et à l'époque, je n'avais pas envie de le faire, et donc ça ne s'est pas fait, voilà, mais c'est tout. Mais je ne regrette rien, hein. Ce que j'ai fait, j'en ai pas honte, mais bon, ça aurait pu être autre chose, mais il en va de toute vie. Hein. À quoi ça tient une vie ? C'est des fois une rencontre, c'est des fois un hasard, hein, qui vous oriente dans un azimut ou un autre, mais Il n'y a rien à regretter, ce que j'ai fait. Je n'ai pas honte de ce que j'ai fait. Les livres que j'ai écrits n'ont peut-être pas bouleversé l'histoire de la littérature française, mais je n'en ai pas honte. Et voilà, ils sont là. Ceux qui les aiment, les aiment. Et ceux qui veulent les aimer, les aimeront.
Est-ce qu'il y a un quartier à Marseille que vous aimez particulièrement ?
Oh ben bien sûr, c'est le port, parce que c'est la matrice, c'est l'utérus de la ville. D'ailleurs, c'est drôle, si vous regardez une vue aérienne, le port de Marseille, le Lacidan, c'est un utérus. Hein, la ville est couchée sur le dos, avec les un peu comme une femme qui est en train de mettre au monde. Voyez, et voilà, si vous prenez une carte aérienne de Marseille, vous verrez, il y a deux collines, un peu comme une femme qui est en train, qui a les pieds dans les étriers, qui est en train de mettre au monde un enfant. Et au fond, elle a la forme de ce qu'elle est. Voilà. Donc moi, chaque fois que j'ai un peu de souligne, je vais au pied de la tour Saint-Jean et je me dis, c'est là que cette ville est née. Les navires des Phocéens sont passés là, dans cette passe où je suis encore là, 27 siècles après. Et depuis, j'ai appris que Marseille n'avait pas 27 siècles d'existence, mais avait 330 siècles d'existence, puisque il y a 33 000 ans, il y avait des Marseillais qui taguaient les murs de la grotte Cosquer, comme maintenant les Marseillais taguent les murs du cours Julien ou de la rue Curiol.
Dernière question, Jean Cotrucci. Quel a été le moteur de votre vie ou dans votre vie ?
C'est une question.
Est-ce qu'il y a quelque chose, un fil conducteur qui vous a mené, qui vous a permis de faire des choses, enfin, quelque chose qui. Oui, un moteur.
Bah, écoutez, je crois que le seul mot que je puisse dire, même s'il est un peu retard, c'est la littérature quand même. Je suis devenu un auteur moi-même. Parce que j'admirais les autres. Et donc, je me suis dit, est-ce que moi, avec les moyens que j'ai, est-ce que je peux m'aligner, au moins au départ, peut-être pas à l'arrivée, mais au moins au départ. Et donc, ben, j'ai quand même 30 ou 35 volumes qui disent que je suis passé par là, quoi, voilà. Que je suis arrivé à mes fins, même si je ne suis pas, comme disait Cyrano, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul.
Votre mère aurait été très fière, non?
Oui, elle l'était déjà. Elle était très fière de son film, comme toutes les mères.
Merci Jean Contrucy.
Je vous en prie.
Vous venez d'écouter Voix Marseillaise, une émission de David Hacoun. Merci à Sidi de Radio Galère et je vous dis à bientôt. Au revoir. Thank you.